Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir à la brutalisation du débat public sur le web et aux moyens d'y remédier, en compagnie de Marilyn Maizeau et de Romain Badoir. Si tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que le débat démocratique serein, rationnel, argumenté tel qu'on le rêve est de plus en plus difficile en réalité sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, ce consensus se disloque lorsqu'on en recherche les causes et il disparaît totalement lorsqu'on pense aux remèdes. Le récent échec de la loi Avia en atteste. C'est donc ce débat, un débat sur le débat brutal, voire impossible, qu'Esprit de justice vous invite ce soir en compagnie de Marilyn Maizeau, qui est philosophe et qui a publié un ouvrage chez Folio intitulé « Les conspirateurs du silence » qui porte précisément sur cette question et puis plus récemment « L'abécédaire Camus » aux éditions de l'Observatoire. Et pour en débattre avec elle, Romain Badoir, qui est chercheur en sciences de l'information à l'Institut français de presse et qui a publié « Le désenchantement d'Internet » il y a quelques mois, voire quelques années, et plus récemment, même tellement récemment que c'est dans quelques jours, il va publier « Les nouvelles lois du web » dans la collection de La République des idées. Alors, Marilyn Maizeau, vous êtes philosophe, je l'ai dit, et vous avez fait une expérience singulière pour penser ces nouvelles configurations du débat public. Vous avez fait le choix d'aller sur Twitter et d'en faire l'expérience, une expérience philosophique, on pourrait dire.
Effectivement, c'était un choix puisque, et d'ailleurs, mes amis me taquinaient beaucoup à ce sujet. J'étais totalement absente des réseaux sociaux à ce moment-là. Et j'ai donc choisi volontairement Twitter parmi tous les réseaux sociaux disponibles parce que c'était le réseau qui ressemblait le plus, en tout cas sur le principe, à une agora virtuelle en raison de sa configuration où, à l'époque, hein, c'était 140 caractères, on s'échange des petits messages. 280, ah, mais oui, ça reste quand même assez bref. Oui, oui. Mais en tout cas, c'était un format qui, en lui-même, sur le principe, permettait des échanges assez discursifs, un petit peu comme au théâtre, pour ainsi dire. Et c'est pour cette raison que j'ai préféré Twitter à Facebook et ses très longs posts. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme différence entre ce que le réseau permettait et la multiplicité de ses usages.
Alors, un agora virtuel, Romain Badoir, agora virtuel, c'est pas tellement ce que vous avez constaté, vous, en tant qu'analyste du débat sur le web.
Alors, en fait, Internet est une grande agora virtuelle et depuis les débuts de l'Internet grand public dans les années 90, on a toujours conçu Internet comme un espace d'échange ouvert, décentralisé, où tout le monde pouvait prendre la parole.
Sans censure.
Sans censure, où la liberté d'expression était respectée. Ce qui a changé ces 10 dernières années, c'est justement la place qu'ont pris ces réseaux sociaux et les grandes plateformes du web dans ce débat. C'est-à-dire que il y a 15 ans, on débattait sur des sites divers et variés, des blogs. Aujourd'hui, si on prend YouTube, Facebook et Twitter, ces trois grands réseaux concentrent à eux seuls la très grande majorité des échanges entre les internautes. Et donc le pouvoir de ces plateformes sur le débat et ce phénomène de reconcentration à différents types de phénomènes, dont celui de brutalisation.
De brutalisation dont vous avez fait l'expérience personnellement, Marilyn Maizeau.
Effectivement, parce que ça n'est pas parce qu'on arrive sur Twitter avec les meilleures intentions du monde qu'on repart avec ce qu'on attendait. Je me suis aperçue très rapidement qu'il y avait sur ce réseau un certain nombre de biais qui ne sont pas des biais propres à Twitter. On parle souvent de twitterisation des esprits, comme si finalement Twitter avait inventé certains problèmes qu'on y rencontre. En réalité, Twitter fonctionne à mon sens plutôt comme une caisse de résonance qui permet de poser comme une loupe en fait sur certaines dérives que l'on trouve, par exemple, dans les médias, notamment dans les médias de type CNews, où il y a des débats entre personnes qui ne sont pas forcément sélectionnées pour leur spécialisation sur un sujet, mais plutôt pour leur capacité justement à créer du buzz, à créer de la polémique et être relayées sur les réseaux sociaux.
Oui, mais alors, justement, cette brutalisation, elle a même des origines technologiques, Romain Badoir. Il y a une sélection, et on dit même qu'il y a le hashtag hashtag, le hashtag de l'affrontement et l'arrobase de plus élégante, plus polie.
Tout à fait. Tout à l'heure, Antoine Garapon, vous parliez de la limite des caractères qui était passée de 140 à 280. Ça, c'est un bon exemple de la manière dont le design d'une plateforme, donc la manière dont elle est conçue,
la conception, c'est
voilà,
ça,
la conception, et va avoir une influence sur la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire que si on a un nombre limité de caractères pour s'exprimer, forcément, on va aller droit au but, on va faire peu dans la nuance, on va être plus radical dans notre manière d'échanger. Le fait de pouvoir mentionner des gens directement via l'arrobase va aussi nous permettre de les afficher, de se moquer d'eux publiquement. Et le recours aux hashtags, donc aux mots dièses qui sont utilisés sur Twitter, va créer aussi des camps opposés. Et en fait, tout ce design de la plateforme crée une forme de conflictualité. Et on se rend compte que si on regarde d'autres plateformes, si on regarde Instagram, si on regarde Facebook, qui ont des designs assez différents, on a des dynamiques d'échange qui sont aussi différentes. Et donc ce design, il n'est pas du tout étranger à la manière dont on va débattre sur ces plateformes.
C'est ça. Et puis, il y a cette conflictualisation où d'ailleurs, vous parlez, Marilyn Maizeau, c'est un terme d'ailleurs qui est en soi révélateur et qui laisse perplexe, de tragique comédie perpétuelle. C'est-à-dire qu'il y a une brutalisation et en même temps, il y a un plaisir, une délectation dans cet affrontement avec des gens qu'on connaît pas.
Oui, alors quand je parlais de tragicomédie, je faisais un petit clin d'œil en fait à la célèbre formule marxienne qui veut que tout se reproduise dans l'histoire, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme comédie. Sur Twitter, en fait, la dimension tragique à laquelle je fais référence, c'est la dimension cyclique. C'est-à-dire que quand on arrive dans un débat, comme les débats en fait sont structurés par des mécanismes, des éléments de langage, des attitudes qui sont répandues et automatiques, on peut savoir à l'avance, en fonction de qui intervient et du sujet, globalement, ce qui va être dit, qui va dire quoi et comment le débat, entre gros guillemets, va se produire.
C'est attendu.
Voilà, donc ça, c'est la dimension tragique. C'est le côté, on sait à l'avance comment ça va terminer. C'est le principe même de la tragédie. Il n'y a pas d'issue, en fait.
Et
on
ça
a
beau va
essayer
mal
de,
se terminer.
Voilà, on peut essayer de nuancer, de complexifier. De toute façon, quand quelqu'un veut polémiquer, il polémique. Et en même temps, le côté comique, c'est que quand on regarde ce que je fais de plus en plus, parce que je fais des breaks de plus en plus longs de Twitter, quand on regarde tout ça de loin, on se rend compte à quel point, en fait, les fameuses polémiques auxquelles on a soi-même participé sont parfaitement ridicules parfois, parce qu'on peut s'écharper pour des choses qui nous feraient rire si on en discutait autour d'un verre face à face.
Justement, on n'est pas autour d'un verre, et dans votre précédent livre, Romain Badoir, vous disiez que c'est pas un lieu politique, en fait c'est pas un lieu qui est prédisposé à la politique, c'est peut-être l'ambiguïté du terme agora virtuel, parce que la politique, elle se fait principalement dans des lieux physiques.
Oui et non, parce que il y a eu du débat politique sur Internet depuis ses débuts. Cela dit, c'est vrai
que... Est-ce qu'il est de qualité ?
Il a pu être de grande qualité. Si on pense par exemple à ce qui s'est passé dans les années 2000 autour du référendum sur le traité constitutionnel européen, c'était la première fois dans l'histoire du web, en France en tout cas, qu'on se rendait compte que face à un discours médiatique un peu dominant à la télévision, dans la presse, on avait des internautes qui allaient construire un débat pour le coup très constructif, qui était très dispersé sur plein d'espaces d'échange très très argumentés. Et à cette période, on a plutôt tendance à louer justement la qualité délibérative d'Internet. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que des plateformes qui n'étaient pas prévues pour accueillir le débat public politique le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde Facebook, à la base, Facebook, c'est un réseau qui est fait pour échanger avec des amis.
D'abord des étudiants, d'abord des copains d'université.
Après le plus grand public, mais c'est un réseau social, donc c'est fait pour relier des gens qui se connaissent, qui vont échanger des contenus, qui vont discuter du quotidien. Et à partir du moment où on se met à parler politique dans ces espaces, bah, justement, ces réseaux vont marquer de leur empreinte ce débat.
C'est ça. Et cette empreinte, il y a deux mots qui reviennent constamment sur votre plume, Marilyn Maizeau. Cette empreinte, c'est une simplification de l'autre. L'autre, c'est une opinion, ça devient vite un ennemi d'ailleurs. Et puis, un autre terme qui est plus préoccupant et qui semble lié à la forme même du débat sur les réseaux sociaux, c'est celle d'essentialisation.
Alors, quand j'emploie les termes de simplification et d'essentialisation, je fais référence à une certaine modalité du débat qui n'a de débat que le nom et qui consiste effectivement, en réalité, à faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que le débat n'ait pas lieu. Le principe de l'essentialisation et de la simplification, j'ai essayé de l'expliquer en faisant référence à un texte de Camus qui paraît visionnaire, puisqu'il l'a écrit bien avant l'émergence des réseaux sociaux, où il explique le mécanisme de la polémique, ce sont ses termes, et il dit que ça consiste à simplifier l'adversaire, par conséquent à refuser de le voir, et il conclut en disant « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire, et de quelle manière ?» Cette manière qu'il a justement de décrire la disparition du visage, et donc de l'humanité de la personne qu'on a en face, au profit d'un stéréotype qu'on peut se permettre d'insulter, de diffamer, de jeter à la vindicte publique, parce que finalement il n'a plus rien d'humain, ça n'est plus que la représentation d'une idée qu'on veut fustiger.
L'incarnation.
Voilà, ouais. Ça c'est effectivement une des modalités malheureusement qui a tendance à prendre du poids sur notamment Twitter, pour une raison aussi qu'il est important de souligner, c'est que c'est quelque chose qui trouve beaucoup d'écho dans les médias en dehors des réseaux sociaux. Très souvent, les polémiques par exemple dont certains médias se font l'écho sont des polémiques qui naissent sur Twitter. On sait très bien que Twitter, de ce point de vue-là, est quand même un vivier où on va chercher des sources d'articles ou des sources d'émissions. Mais en dehors de ça, j'aimerais quand même en parler un petit peu, parce que sinon on va donner l'impression que Twitter, c'est l'enfer sur Terre. On va me demander si je ne suis pas masochiste d'y rester. Twitter, comme Facebook et comme tout support, tout réseau social, est extrêmement plastique. L'expérience que j'ai faite, c'est que comme l'expérience justement des messages en 280 caractères où on simplifie, où ça vire à la polémique, était insatisfaisante, j'ai pris l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle le thread, c'est-à-dire en anglais le fil, qui est une possibilité qu'offre Twitter, qui d'ailleurs a été simplifiée aujourd'hui, il suffit d'un seul clic pour pouvoir le faire, donc c'est très très simple à faire.
Et là on peut remonter et puis on peut avoir accès à une
argumentation. Consiste en fait à pouvoir faire littéralement un texte, parce qu'un texte, littéralement, c'est un textile, c'est un fil, donc c'est l'équivalent d'un texte sur une page, mais fait de manière verticale.
Mais Romain Badoir, une des difficultés qu'on a, et notre débat, si on continuait ainsi, tomberait dans le panneau, j'allais dire, c'est que ce que vous montrez, c'est que derrière le débat, il y a toute une économie. Une économie très puissante. Et une économie très puissante et très explicative aussi de ce qui se passe. Et une économie qui va se nourrir de la polémique beaucoup plus que de l'échange feutré d'arguments.
Qui va se nourrir de la polémique et qui va la nourrir aussi. C'est effectivement ce modèle économique des plateformes qui est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, en fait, qui consiste à nous faire passer le plus de temps possible sur les plateformes en consommant donc les contenus qui nous plaisent, qui ressemblent à ceux qu'on a déjà consommés. Donc ça, c'est tout ce qui touche aux controverses sur l'enfermement idéologique, l'idée qu'en fait on voit un peu toujours les mêmes choses. Alors c'est moins vrai sur Twitter, c'est plus vrai sur YouTube ou Facebook par exemple. Et puis, il y a aussi cette idée que lorsqu'on publie des contenus, l'enjeu, c'est d'être visible, c'est d'être vu. Et pour être vu, les algorithmes de tri des plateformes vont attribuer différents types de bonus à des contenus qui sont plus simplifiés, plus radicaux, plus aguicheurs, de manière indirecte, parce que ce sont justement ceux qui attirent l'attention. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement cet enjeu sur les plateformes par rapport au débat, qui est moins de débattre que d'occuper l'espace du débat, de faire en sorte, lorsqu'on est dans un débat politique, de manière stratégique, de faire en sorte que notre adversaire se taise pour offrir la plus grande visibilité aux arguments qu'on défend. Et pour faire taire son adversaire, on peut en passer par différents types de méthodes qui ne sont pas toujours très recommandables.
D'où l'ambiguïté d'ailleurs du réseau social, parce qu'il a donné effectivement, vous le rappelez d'ailleurs dans un de vos ouvrages, Romain Badoir, il a donné la parole à des gens qui n'avaient pas la parole, à des femmes, à des classes, des CSP inférieures, à des jeunes, à des moins. Bon, et donc ça c'est un aspect très positif. Et en même temps, les études ont montré que c'est pas les conspirateurs du silence, mais qu'il y a une sorte d'aspiration au silence dans les débats.
Il y a effectivement une spirale du silence. Et vous avez raison de rappeler quand même que aujourd'hui on parle de ces phénomènes de brutalisation. Internet dans l'histoire des médias, c'est quand même un outil qui a énormément ouvert l'espace public, qui a ouvert le débat public à des voix qu'on n'entendait jamais, qui permet à beaucoup de gens de s'exprimer qui n'avaient pas la parole. Donc c'est une vision qui est extrêmement pluraliste du débat, mais un pluralisme qui est aussi très radical pour le coup.
Mais il y a Marine Maizeau, vous le dites, cette expression aussi, c'est que l'autre est pas présent. C'est une silhouette, pour reprendre l'expression de Camus. Il est réduit à l'état de silhouette. Et donc, la violence, est-ce que c'est la même violence quand on s'adresse à quelqu'un en face à face? Ou est-ce que on s'adresse à des tas de gens qu'on connaît pas, finalement? Vous parlez à un moment de violence confortable.
Alors, je parle de violence confortable, il faut rendre à Camus ce qui est à Camus.
Autre expression camusienne, absolument.
C'est un texte essentiel à mes yeux que Sartre, bien sûr, a eu beau jeu d'ignorer parce que ça lui donnait tort. Lorsque Sartre faisait de Camus un non-violent, Camus s'explique contre cette fausse accusation dans un texte qui est sa première réponse à Emmanuel Dacier de la Vigerie, où il explique qu'il n'a jamais dit qu'il était contre la violence dans l'absolu, puisqu'il est bien placé pour avoir vécu plusieurs guerres et la résistance, pour savoir que parfois la violence est absolument inévitable. Mais, explique-t-il, ce dont il a horreur, c'est non pas de la violence en elle-même, mais de la violence confortable. C'est-à-dire qu'il a horreur, comme il le dit, des gens...
Autres.
Voilà, mais les gens dont les mots vont plus loin que les actes, et il termine de manière cinglante en disant qu'il cesserait de mépriser certains de nos grands esprits, comme il dit, le jour où ils tiendront eux-mêmes les fusils de l'exécution. Et je trouve que cette image est extrêmement parlante en la transposant mutatis mutandis pour comprendre ce qui se passe sur des réseaux sociaux comme Twitter, parce que il y a une différence fondamentale entre s'emporter dans un débat, par exemple télévisé, face à quelqu'un, et insulter un écran. Et la différence, justement, c'est que le fait de ne pas voir l'autre, et non seulement de ne pas voir l'autre, mais de ne pas voir la conséquence de ses propres mots sur l'autre, a un pouvoir de désinhibition qui est assez fondamental. De la même manière que condamner à mort quelqu'un en un trait de plume, comme faisait Sartre dans la préface aux Damnés de la Terre de Fanon, lorsqu'il disait « Tuer un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer un oppresseur, un opprimé, reste un homme mort et un homme libre », il est en train de littéralement énoncer une équation, sauf que lorsqu'il s'agit effectivement de prendre les armes et d'aller abattre un Européen en le regardant dans les yeux, l'histoire n'est pas tout à fait la même.
Bien sûr, et puis il y a des gens qui le font, mais on voit ce rôle d'autorisation des réseaux sociaux, d'autorisation qui autorise la violence, et puis aussi qui rapidement va justifier moralement l'agressivité, Romain Badoir.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas forcément juste lié aux réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est très exacerbé par les réseaux sociaux, cette idée de justice punitive. C'est-à-dire que on est d'autant plus violent avec quelqu'un que cette personne va contrevenir à des normes morales
qui sociales. Qui ne sont pas légales la plupart du
qui
temps,
Qui ne sont pas forcément légales.
Qui ne sont pas illégales.
Qui ne sont pas illégales, oui, tout à fait. Donc, si on condamne quelqu'un qui a tenu des propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes, par exemple, ça va justifier le fait qu'il y ait un déchaînement de violence à son égard, parce que, quelque part, il ou elle l'aura bien cherché. Et il y a une expérience assez intéressante, qui a été réalisée par une sociologue américaine, où elle réunit trois focus groupes à qui elle présente un même tweet. Ce tweet qui est un tweet d'insulte entre deux jeunes femmes où une jeune femme insulte l'autre de sale conne et dit qu'elle devrait mourir. Au premier groupe, on leur demande, est-ce que vous trouvez ça justifié que quelqu'un puisse tenir ce type de propos sur Twitter? Et évidemment, le focus groupe répond, ah ben non, c'est pas normal, etc. Au deuxième, on leur dit que la personne qui est insultée a volé un portefeuille ou a volé une petite somme d'argent à un couple de retraités. Et au troisième focus group, on leur dit qu'en fait, la personne qui est insultée a en fait arnaqué ce couple de personnes âgées, leur a volé toutes ses économies, et ce pauvre couple se retrouve ruiné. Et en fait, les réponses données par les trois focus group sont très différentes. Parce qu'on va considérer que cette violence, elle est justifiée, elle se trouve une justification morale, dès lors qu'elle est dirigée contre quelqu'un qui, justement, sort des normes admises.
Mais Marine Maizeau, on entend ça beaucoup, ça fait beaucoup penser à un débat très très contemporain hein, sur la cancel culture, sur la culture de l'annulation, etc. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même cette idée que puisque la parole est libre, c'est nécessairement démocratique. Et que critiquer les réseaux sociaux, c'est critiquer la démocratie.
C'est effectivement un débat que j'avais eu alors par livre interposé, puisque je n'ai jamais eu l'occasion pour le moment d'en discuter face à face avec lui, mais j'espère qu'elle viendra. C'est un désaccord que j'avais avec le vidéaste Usul, qui justement, dans une de ses vidéos, disait, je cite, « Moi, quand j'entends des critiques des réseaux sociaux, j'entends une critique de la démocratie. » Donc, il mettait une sorte de signégal entre réseaux sociaux et démocratie. Or, ce qui me gêne avec ça, c'est que généralement, comme on énonce, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, le fait que les réseaux sociaux ont permis de démocratiser l'accès à la parole, ce qui est vrai, on peut très facilement arriver à la déduction que si le débat se brutalise, ça veut dire que finalement la démocratie c'est la brutalité. Or justement je trouve que c'est problématique pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est une vision extrêmement élitiste de la réalité, parce que les réseaux sociaux comme Twitter en l'occurrence c'est pas des réseaux sociaux populaires du tout. Donc la fameuse violence démocratique, les personnes qui ont fait des hautes études, qui sont parfois universitaires, journalistes ou autres, ils s'emportent de manière tout aussi violente, voilà, tout aussi injuste que des personnes qui ont fait des études moins poussées. Donc c'est vraiment une vision biaisée des choses, c'est pas la démocratisation qui a provoqué ou augmenté quoi que ce soit en la matière. Et le deuxième élément, je trouve qu'il est important de souligner, c'est que la démocratie c'est pas une essence qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui s'apprend, et le débat c'est quelque chose qui s'apprend. Or, en fonction des études qu'on a faites et des formations qu'on a reçues, les capacités à débattre et la capacité à prendre part à un débat de manière constructive, elle n'est pas équitablement répartie.
Mais Romain Badoir, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs des utilisateurs, sociologiquement, des utilisateurs des réseaux sociaux? Est-ce que c'est véritablement populaire?
Alors, ça dépend des plateformes, justement. Un réseau social comme Facebook, c'est un réseau social qui est très populaire dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il est très utilisé par plus de la moitié de la population en France et où les différentes catégories socio-professionnelles sont plutôt équitablement représentées, même s'il y a un gros biais en termes générationnels. Par contre, effectivement, Twitter, c'est un réseau social sur lequel sont surreprésentés les hommes, les urbains, les CSP+. Et donc, c'est effectivement un regard biaisé qu'on a sur le débat. Mais par rapport à ce que vous disiez, mettre un trait d'égalité entre démocratie et réseaux sociaux, c'est aussi oublier, par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la spirale du silence, que la majorité des internautes sur les réseaux sociaux ne font que regarder en fait ce qui se passe. Ils participent pas aux échanges. Et donc, il faut aussi avoir en tête que ce qu'on dit et ce qui est dit sur les réseaux sociaux s'adresse à un public qui ne se manifeste pas et qui est pourtant aussi à prendre en compte.
Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say, it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue notre débat sur la brutalisation du débat public en compagnie de Marilyn Maizeau et de Romain Badoir. Marilyn Maizeau qui a choisi de nous faire écouter ce morceau de Lily Allen que je vous laisse nous présenter, Marilyn Maizeau.
Oui, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit de prononcer les mots.
C'est de l'anglais, c'est de l'anglais.
Ça va, donc la chanson qui est très connue d'ailleurs s'intitule « Fuck You », qui se traduit littéralement « Va te faire foutre ». Et c'est une chanson que Lily Allen a écrite en pensant au président Bush, junior, parce que notamment il y a un passage où elle fait référence à la guerre, donc à ses velléités bellicistes, et elle lui dit « Mais de toute façon, si tu veux faire la guerre, tu es déjà dedans, les gens comme toi, il faut qu'on les tue, et on n'en a rien à cirer de ce que tu penses. »
Mais c'est très doux. Mais ça,
voilà, c'est ce que j'adore avec cette chanson, c'est qu'en fait, les personnes, par exemple, qui ne sont pas du tout anglicistes, qui ne comprennent pas un mot d'anglais, peuvent penser que c'est une balade, parce que la musique, et puis même la voix de Lily Allen est extrêmement posée, extrêmement douce, mais quand on écoute les paroles, il y a un décalage qui est tel que je trouve que c'est une illustration assez intéressante, parfois, du décalage entre la manière dont on survalorise le débat, dont on dit que c'est bien de débattre, d'accepter le désaccord, de s'écouter, et la réalité des faits quand il s'agit effectivement de débattre avec quelqu'un.
Mais Romain Badoir, ce paradoxe, il est central, dans le fond, sur la question du web, au-delà d'ailleurs du débat, parce que on n'a pas tardé à se rendre compte qu'on ne pouvait pas laisser la parole absolument libre, qu'il y avait des tas de raisons de l'empêcher, et là on commençait tout un processus qui continue toujours aujourd'hui, qui est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une régulation, un tempérament, une modération au débat public sur le web.
Vaste question qui anime les législateurs depuis justement les débuts de l'Internet grand public, où dès la fin des années 90, dès le début des années 2000, on a des lois qui essayent de réguler plus fermement ce qui peut être dit ou non sur Internet de manière générale. Et puis, il y a quand même eu un tournant récemment qui est l'élection présidentielle américaine de 2016, où avec ce qu'on a appelé l'affaire russe, l'affaire Cambridge Analytica, aux États-Unis, les pouvoirs publics vont faire pression sur les plateformes pour qu'elles modèrent davantage, qu'elles régulent davantage les contenus qui y circulent. Et en Europe, où on va avoir un ensemble de projets de loi, alors il y a la fameuse NetzDG en Allemagne, qui vise à justement limiter les discours de haine sur les réseaux sociaux, la loi sur les manipulations de l'information en France, la loi VIA, donc qui finalement a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et puis en ce moment, au Royaume-Uni, il y a un projet législatif qui s'appelle Online Arms et qui vise aussi à une régulation plus stricte des réseaux sociaux. La grande question étant, est-ce que la loi est le moyen le plus efficace de réguler, et comment évaluer cette efficacité ?
La réponse est assez évidente, non, Marilyn Maezo ? Est-ce que la loi est efficace pour sur le net ?
Non. La question, c'est qu'est-ce qui est efficace? En tout cas, disons la question de fond philosophiquement, c'est effectivement un dilemme plus qu'une question en réalité, parce que c'est très difficile d'avoir un avis tranché à ce sujet pour une raison très simple, c'est que contrairement à ce qu'on dit parfois, on sépare d'un côté les actes et les paroles, il faut laisser les paroles se dire sans aucune censure, sans aucune limitation. Les actes, par contre, c'est pas pareil, parce qu'il y a des conséquences. C'est une vision de l'esprit qui est complètement faussée. La preuve, je prends un seul exemple, lorsqu'on parle de diffamation, si la diffamation est un délit, c'est parce qu'on considère que c'est une parole qui peut porter préjudice à la personne qui en est victime. Les paroles de haine, malheureusement, c'est un petit peu la même chose d'une certaine manière, parce que à partir du moment où ce type de parole se banalise, elle se légitime, et on sait pertinemment, comme l'histoire l'a démontré, je pense par exemple au livre de l'historien Jacques Semlin, qui dans Purifier et détruire, explique comment tous les grands génocides de l'histoire, donc en termes de crimes de haine, c'est quand même l'exemple type, ont commencé par une préparation idéologique de la population, qui a passé notamment par les médias comme la radio Rwanda. Donc à partir de là, on ne peut pas se voiler la face en se disant la liberté d'expression à tout prix, de toute façon, ce ne sont que des paroles. Et en même temps, pour voir l'autre aspect du problème, le souci, c'est où est-ce qu'on met la barre, où sont les critères, qui s'en occupe.
Romain Badoir.
Et par rapport à ce que vous venez de dire, il y a justement une question qui est fondamentale entre la perception que l'on peut avoir de la liberté d'expression suivant les pays, les zones géographiques. Parce que les grandes plateformes du web, ce sont des entreprises américaines. Donc elles sont marquées par cette vision très américaine de la liberté d'expression, que l'on décrit parfois comme absolue, sûrement un petit peu à tort, mais en tout cas plus...
Depuis le premier amendement.
Le premier amendement, exactement. Et où en fait, aux États-Unis...
Le premier amendement pour nos auditeurs qui refusent de brider la liberté d'expression et qui croient au marché des idées, un marché libre des idées dans lequel les citoyens vont faire leur marché et vont retirer les meilleurs.
Exactement. Et qui en font la valeur absolue de la démocratie américaine. Et ce qui se traduit dans le droit américain par le fait qu'on va distinguer les hate speech, les discours de haine, et les fighting words, les incitations à la violence. Et donc on va punir les incitations à la violence. Par contre, les discours de haine vont être laissés libres d'être prononcés. À l'inverse de l'Europe, où justement on a aussi une histoire particulière, qui est que on a eu des génocides sur notre territoire, avec des violences de masse importantes qui ont été préparées aussi effectivement par des discours de haine. Donc on est beaucoup plus sensible à ça, et on est beaucoup plus prompt à les criminaliser, ou en tout cas à les pénaliser plutôt.
C'est ça. Alors il y a une ambiguïté, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce dossier-là, mais il y en a une qui me frappe, c'est que il faut réguler et trouver des moyens de censure, de contrôle, d'un recours face à ces discours de haine, mais en fait les auteurs ne sont pas du tout équivalent entre cette sorte de jeu malsain, obscène, où on cherche à disqualifier l'autre des utilisateurs de Twitter ou des réseaux sociaux, et puis une organisation qui est tristement célèbre, l'Internet Research Agency, qui est IRA, et qui en réalité est une officine du Kremlin pour déstabiliser de manière extrêmement scientifique et méthodique les jeux électoraux occidentaux. C'est pas du tout les mêmes entités, Marine Maizeau.
Effectivement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les conséquences en fait de ces paroles. Quand on a un tweeto lambda qui s'amuse, comme c'est le cas, hein, parce que ça, en même temps, ça montre bien le fonctionnement de Twitter, qui s'amuse à jouer avec les hashtags, les fameux maudits dont on parlait tout à l'heure, où on se rend compte que parce que quelqu'un fait un hashtag, par exemple, mort aux juifs, comme c'est régulièrement le cas, les personnes sur Twitter s'offusquent de l'existence de ce hashtag. Ça arrive en TT, c'est-à-dire ça arrive dans le top classement des hashtags de Twitter, alors qu'en réalité, les personnes qui ont lancé ça, c'est trois anonymes qui n'ont aucun poids, aucune visibilité et donc aucune conséquence. Et la majorité des tweets à ce sujet ont été faits par des personnes qui l'ont dénoncé. Donc bien sûr, il faut faire des nuances au sein des discours de haine. Mais il y a, au-delà de l'agence que vous avez évoquée, il y a aussi des groupes qu'on appelle groupuscules, à tort à mon avis, d'extrême droite, dont le poids sur les réseaux sociaux et la capacité de nuire est extrêmement forte. Et notamment parce que souvent, ils ne sont pas situés, d'un point de vue numérique, en France.
Parce qu'ils ne sont pas situés en France, Romain Badouard, et aussi parce que ça active, ça affole les réseaux sociaux. L'extrême droite, c'est un truc, c'est quelque chose qui marche, qui est vendeur, qui draine beaucoup d'attention, et on retrouve l'économie du web.
Oui, et je pense d'ailleurs qu'on est passé un petit peu à côté de ça dans les années 2010, c'est-à-dire que l'extrême droite est devenue quand même une des grandes puissances politiques sur le web, et leur grande force a été justement de passer par des formes de contre-culture, de passer par des formes de contre-culture subversive sur des forums, sur les réseaux sociaux, et donc d'agréger des soutiens plus ou moins directs d'ailleurs, et de développer justement des stratégies de silencing, donc de réduire au silence un certain nombre d'adversaires en les intimidant via le cyberharcèlement, pour que leurs idées soient le plus visible et le plus légitime possible. Et ces méthodes, d'ailleurs, elles ont été aussi intégrées par le camp d'en face qui aujourd'hui les utilise aussi.
Est-ce que l'extrême droite et l'extrême gauche sont véritablement sur la même ligne? On a tendance à les renvoyer dos à dos, c'est des extrêmes, mais en réalité, à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit quand même deux tableaux très différents. C'est-à-dire que ce rejet de l'autre, on pourrait dire, c'est quand même le fond de commerce de l'extrême droite, l'antisémitisme, la haine de et parce que délibérément, on a l'impression que l'extrême droite repose sur la violence, sur quelque chose d'archaïque, à la différence de l'extrême gauche qui peut-être s'aligne sur malheureusement sur cette violence, mais qui est plutôt pour essayer d'imposer des fictions, quelque chose de l'ordre de l'utopie, Marine Maizeau.
Il y a effectivement cette dimension-là, la dimension de la fin justifie les moyens, qui n'a rien de nouveau, puisque c'était déjà le cas d'une certaine façon dans l'opposition entre d'un côté l'idéologie soviétique et de l'autre, je parle de l'idéologie,
pas de
son application.
Vous parlez de Sartre. Sartre maniait l'insulte quand même.
Ah oui,
beaucoup,
mais l'insulte, j'ai envie de dire, ça n'est rien en fait par rapport à ce que un nazi pouvait dire. Sartre maniait l'insulte. La petite différence quand même, si on doit comparer Sartre à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Sartre, quand il avait terminé de dire à Camus qu'il n'était pas capable de comprendre de la philosophie théorique, il a quand même produit des textes qui, pour le coup, étaient des vrais textes de débat, qui parfois étaient virulents, avec des termes extrêmement forts, mais avec une argumentation qui se tenait. Le problème, c'est quand on ne garde que le Sartre qui monte dans les tours sans fond dans le débat et qu'on met de côté l'argumentaire. En revanche, c'est pas simplement, je pense, une question d'opposition entre la haine assumée et l'utopie. Je pense qu'il y a aussi un problème, vous avez pris l'exemple de l'antisémitisme, pour moi c'est un exemple qui est extrêmement symptomatique de ça. L'antisémitisme à l'extrême droite, si vous voulez, depuis la Seconde Guerre mondiale, globalement, on voit à peu près ce que c'est, on a l'habitude, ça se renouvelle pas énormément. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, et pourtant à l'extrême gauche, l'antisémitisme a aussi une histoire, il a tendance à se banaliser, il a tendance à utiliser d'autres mots, il a tendance à s'infiltrer, et c'est beaucoup plus difficile de le pointer du doigt, justement parce que les intentions qui sont avancées sont bonnes. Et c'est ce qui fait la différence, en fait.
Alors comment est-ce que, Romain Badoir, comment est-ce qu'on va s'y prendre si le juge est disqualifié, s'il y a ce phénomène que vous appelez d'extrajudiciarisation. C'est pudique pour dire que les institutions publiques sont pas à la hauteur. Alors, ça veut dire que il va y avoir d'autres techniques gérées directement par les plateformes. Mais comment ils vont faire dans le cas que vient de signaler Marilyn Maezzo d'un antisémitisme sourd, sournois, discret, beaucoup plus difficile à détecter?
Alors, déjà, on peut pas forcément dire que la loi est totalement disqualifiée par rapport à ces enjeux de régulation, et notamment ce qu'on voit à travers les lois qui sont votées en Europe ces dernières années, c'est justement un retour de la loi et un retour des pouvoirs publics et de leur pouvoir pour imposer des nouvelles normes dans l'espace public numérique. Donc ça, c'est un peu nouveau, ou en tout cas c'était pas aussi marqué avant. Sur ce que vous venez de dire, Antoine Garapon, sur la détection des propos racistes, haineux, antisémites, ça c'est le gros enjeu aujourd'hui. C'est le gros enjeu, c'est-à-dire comment on s'y prend pour modérer les prises de parole sur les réseaux sociaux. Historiquement, la manière la plus simple, ce sont les signalements des internautes, c'est-à-dire, si vous êtes témoin d'un discours raciste, vous le signalez, et un modérateur va faire le choix de décider, est-ce que je laisse cette parole, cette publication, ou est-ce que je la supprime. Sauf qu'il y a tellement de publications aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
C'est énorme,
c'est YouTube, c'est toutes les minutes, il y a 500 heures de vidéos qui sont chargées sur YouTube. Donc les moyens humains ne sont plus à la hauteur, et les plateformes utilisent des moyens de détection automatique par le biais d'algorithmes qui vont chercher à repérer des insultes, des propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes. Le problème étant que c'est facile de modérer, de détecter automatiquement des propos haineux lorsqu'ils sont explicites.
Mais ceux qui détiennent
savent très bien s'y prendre, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des sous-entendus, ils vont manier l'ironie à la perfection, ils vont utiliser d'autres mots, des arts de la dissimulation pour ne pas être repérés, et les algorithmes n'arrivent pas à les repérer. En même temps, cette automatisation de la modération, il pose aussi un certain nombre de problèmes en termes de liberté d'expression, parce que si ce sont des machines automatiques qui doivent faire la police de la parole sur les réseaux sociaux, ça devient aussi problématique. Et il y a aussi des risques de censure abusive derrière tout ça. Donc le problème est compliqué.
Alors, on va y revenir, mais moi ce qui me frappe dans s'en remettre aux machines, c'est une sorte de délégation aux machines. On a l'impression que le débat, c'est déjà une délégation aux machines par rapport aux tiers espaces, à en parler chez le coiffeur, au bistrot, dans lequel on rencontre des gens en personne. Il y a une délégation donc des machines qui font beaucoup de choses pour nous, Marilyn Maezzo, puis il y a aussi une délégation du contrôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec toutes ces stratégies qui sont mises en place, et d'ailleurs avec bonheur, certaines marchent bien, d'ailleurs on va y revenir, on a l'impression qu'on va plus loin encore dans la délégation à des entités non politiques, non responsables.
Effectivement, c'est une très bonne remarque, et ce qui est important, c'est que c'est une délégation du contrôle, mais aussi en un certain sens une délégation de la responsabilité ressentie, parce que vous avez évoqué le fonctionnement de la modération à l'ère des réseaux sociaux, où il y a tellement de contenu produit que humainement c'est impossible de le faire manuellement parce qu'on va pas assez vite, si vous voulez. Le problème, c'est que puis comme ça a été évoqué, cette modération passe notamment, repose notamment souvent sur les signalements faits par les utilisateurs. Ça devient une arme polémique, puisqu'il suffit de signaler en masse et d'appeler, comme ça se fait très souvent, ses abonnés à signaler en masse un contenu qui déplaît, quand bien même il n'y aurait aucun contenu répréhensible dans le tweet ou le message en question. Bah, ce qui se passe, c'est que le compte va être suspendu, puis le temps que des recherches soient faites, même si ensuite il est rétabli, symboliquement, il y a une sorte de victoire. En fait, on a réussi à le faire suspendre.
C'est ça, et effectivement, ces dispositifs de modération, ils sont un peu détournés par les internautes, c'est exactement ce que vous dites, avec beaucoup de signalements abusifs. On parlait tout à l'heure de l'idée de faire taire un adversaire. Signaler massivement un compte ou une publication, c'est le meilleur moyen pour que des modérateurs ne prennent pas forcément le temps pour l'évaluer et décident de la retirer. Et c'est devenu un outil de censure collective quelque part, c'est-à-dire que si je veux faire taire mon opposant, bah, je vais réunir 10-15 personnes sur un blog ou autre et je vais leur dire demain à midi, on va tous sur Facebook, on va tous signaler le compte au même moment et donc on va donner l'impression que cette personne, elle tient des propos répréhensibles et on va lui faire bloquer son compte. Donc il faut pas être naïf là-dessus non plus, on accuse beaucoup les plateformes, les internautes aussi parfois ont une manière de les détourner.
C'est double utilisation, là, cette fameuse théorie où on dit oui, bien sûr, le web configure nos échanges, mais on est capable aussi de détourner les règles de configuration pour à notre avantage. Mais Romain Badoir, ça veut dire que il y a quand même une grande différence. La loi, elle est annoncée. La loi, on la publie. Il y a des institutions et cette visibilité de la loi est une partie de son exécution, comme vieille tradition démocratique. Et là, on a l'impression que ces techniques de modération, renvoyer un site, le planquer, passez ma expression, en le mettant dans les profondeurs d'une machine, c'est une censure, mais invisible. Mmh.
Exactement. Alors ça, c'est une nouvelle technique qui est utilisée par les principales plateformes de réseaux sociaux. L'invisibilisation justement des contenus gris. Parce que du côté des plateformes, en fait, il y a un problème qui est, par exemple, si vous prenez les fausses informations ou des discours de haine déguisés, on est face à des contenus qui ne contreviennent pas aux standards de publication des plateformes. C'est-à-dire que visiblement, il n'y a rien de répréhensible. Pour autant, on sait que ce sont des contenus trompeurs, nocifs. Et donc, si on ne les supprime pas, on cherche à agir à leur égard. Et qu'est-ce que font les plateformes ? Elles vont justement, comme vous le disiez, dégrader leur visibilité, donc faire en sorte, par exemple, qu'un post s'affiche moins haut sur un fil d'actualité sur Facebook, s'affiche beaucoup plus bas, donc il sera beaucoup moins vu, ou alors qu'il soit moins recommandé par les algorithmes de recommandation de YouTube. Donc les gens vont moins voir ces contenus-là. Sauf que ceux qui les publient ne sont pas forcément au courant que leur visibilité est dégradée, et en cas d'erreur, ça crée effectivement des formes de censure par invisibilisation qui peuvent être problématiques.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours sur la brutalisation du débat public sur Internet avec Marilyn Maizeau et Romain Badoir. Romain Badoir qui a choisi de nous faire écouter une musique cool, DJ Shadows, Six Days. Il avait peur qu'on se dispute, il avait peur que le débat devienne brutal. Alors
exactement.
Voilà. Mais il y a aussi, c'est une autre technique. Alors ça aussi c'est nouveau, Romain Badoir. Il y a des techniques d'apaisement du débat sur Internet.
Bah, les techniques d'invisibilisation dont on parlait tout à l'heure en sont un exemple.
Oui, non, mais aussi moi, je parlais des techniques volontaires d'apaiser le débat.
Oui, alors effectivement, ça ce sont des démobilisations qui viennent des internautes eux-mêmes, ce qu'on appelle la stratégie des contre-discours qui s'incarne à travers des groupes d'internautes qui justement vont repérer des débats houleux ou plutôt haineux et agressifs et vont chercher justement à pacifier le débat, soit en portant la contradiction aux propos haineux qui sont tenus, soit en montrant que des contre-vérités sont publiées. Il y a un groupe comme ça qui est assez important, qui est le groupe Je suis là, qui est une traduction d'une initiative scandinave où justement on a une armée de d'elfes contre les trolls, comme ils se surnomment eux-mêmes, qui vont justement chercher à pacifier les échanges en allant parler directement aux internautes.
C'est ça. Le pacifier, qui en anglais veut dire la tétine, c'est ça finalement. Hein,
les elfes contre les trolls, on se croirait dans l'univers de Tolkien, j'adore.
Oui, mais alors justement, on n'est pas dans l'univers de Tolkien, parce que Marine Maizeau, et là c'est un philosophe que je m'adresse, mais il y a quelque chose qui me perturbe personnellement, c'est ce que vous montrez très bien l'un et l'autre d'ailleurs, c'est cet emboîtement du politique sur quelque chose qui n'est pas du tout politique, qui sont les lois du marché, et qui sont des lois économiques extrêmement dures, qui montrent tout le paradoxe d'un pompier pyromane, d'une grande plateforme qui doit chercher à calmer le jeu, alors qu'en fait c'est ce débat très très actif, très passionnel, qui fait son fonds de commerce à travers les droits publicitaires.
Effectivement, Antoine Garapon, quand on se demande ce qui fait du clic, on se demande ce qui fait vendre. Hein, c'est exactement l'équivalent. Et ça me fait penser d'ailleurs, d'une certaine façon, à une réflexion qu'avait eue le philosophe Peter Sloterdijk dans son livre « Colère et temps », qui est un clin d'œil à Heidegger, où il parlait d'une économie de la colère et même d'un capitalisme de la colère. Lui, c'était pour qualifier l'idéologie soviétique. Il disait en fait que c'était une économie qui consistait à capitaliser sur la colère, les passions négatives, la rancœur, et justement essayer non pas de l'instrumentaliser sur le moment, mais de la faire monter, ces principes du capitalisme, de l'emmagasiner jusqu'à ce qu'elle atteigne un pouvoir une force de frappe suffisante pour que ça crée une polémique, pour que ça crée un buzz marquant. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe, notamment à travers la reprise des hashtags, la manière dont les polémiques sont montées en épingle, la manière dont les médias répondent aux réseaux sociaux qui répondent aux médias. C'est effectivement, à mon sens, qu'on pourrait appeler une économie de la colère ou, plus spécifiquement concernant les réseaux sociaux, une économie de l'indignation.
Romain Badouard, ça vous parle, ça, c'était comme ce capitalisme de la colère ou ce capitalisme de l'indignation. On le voit bien tous les jours, y compris dans la presse écrite d'ailleurs, à quel point c'est un moteur puissant, d'autant plus puissant qui s'adresse, dont le ressort sont nos passions tristes.
Oui, c'est aussi un enjeu de régulation, cette question du fonctionnement du marché publicitaire et de la manière dont l'économie de l'attention va créer justement une focalisation sur des contenus qui vont être radicaux, voire violents, et qui effectivement flattent nos bas instincts, entre guillemets. On a des études sur le sujet qui montrent que justement, lorsque les plateformes font des annonces en disant « bon, on va faire en sorte que les sites pourvoyeurs de fausses informations ou les sites haineux n'aient plus accès à nos régies publicitaires, ne puissent plus gagner de l'argent en diffusant des contenus sur nos plateformes », on se rend compte qu'en fait, elles peuvent aussi mettre en place des techniques qui vont quand même permettre à ces sites de diffuser indirectement de la publicité, parce que tout simplement ces sites et ces chaînes YouTube rapportent beaucoup d'argent. On avait une étude d'une association américaine qui s'appelle Campaign for Accountability, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qui montrait que sur YouTube ou vis-à-vis de le fonctionnement plus global de la régie publicitaire de Google, des sites d'extrême droite pourvoyeurs de fausses informations étaient capables de rapporter 10-20 fois plus d'argent que des sites politique lambda, parce que justement ils attiraient l'attention avec des propos très radicaux, qu'on les regarde d'ailleurs pour les soutenir ou qu'on les regarde pour les dénoncer, et donc que l'intérêt de ces grandes plateformes n'était pas forcément de les évacuer.
Mais c'est ça le grand problème, ouais, c'est ça que je trouve très angoissant, qui me préoccupe beaucoup, Marine Maizeau, parce qu'à partir du moment où la dédémocratisation la dégradation de la démocratie est accordée à un marché, quand on connaît la puissance du marché, quand on connaît la puissance financière absolument gigantesque des GAFAM, et qui s'est encore accrue après le confinement, est-ce que là, on n'est pas sur le problème de fond de nos démocraties ?
Oui, comme vous le dites, Antoine Garapon, c'est un problème de fond qui n'est pas propre aux réseaux sociaux, mais qui est redoublé, voire accentué par eux, puisque c'est un dilemme qui se pose depuis des siècles. Qu'est-ce qui prédomine ? Est-ce que ce sont les valeurs éthiques ? Est-ce que ce sont les enjeux éthiques ? Ou est-ce que ce sont les enjeux économiques, l'intérêt économique ? Les passions et l'intérêt, si vous voulez,
c'est un vieux débat
philosophique. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, le problème, c'est aussi un problème d'impuissance, parce que, de fait, ce problème se pose à beaucoup de gens qui essayent de trouver des stratégies alternatives, par exemple, qui créent des réseaux sociaux alternatifs, qui, justement, mettent en évidence le débat, qui n'hésitent pas à considérer que toute personne qui ne respecte pas les règles minimales du respect de l'autre sont exclues. Mais le souci, c'est que pèsent ces réseaux sociaux alternatifs face à des géants comme Facebook ou Twitter. Donc effectivement, il y a un petit peu un sentiment d'impuissance qui peut envahir. Après, comme on l'a évoqué tout à l'heure au sujet des machines, ou comme on pourrait le dire, et mon ami Aurélie Jean en parlerait beaucoup mieux que moi, concernant les algorithmes, je pense qu'il ne faut pas non plus partir dans l'extrême inverse, qui consiste à dire que finalement, les machines ont pris le dessus, le marché a pris le dessus, et on n'a plus aucun pouvoir d'action sur les réseaux sociaux.
Non, c'est pas, je ne vais pas jusque-là, mais je constate, Romain Badoir, que dans votre livre sur qui va apparaître dans quelques jours, les nouvelles lois du web, qui portent précisément là-dessus, vous terminez en disant il faut reconnaître de nouveaux droits par de nouvelles institutions, des institutions publiques. Et c'est d'ailleurs un peu ce que font les Britanniques, c'est ce que nous, on cherche à faire avec l'ARCOM, c'est ça, c'est-à-dire la fusion du CSA et d'Adopi. Mais vous constatez aussi que ça ne peut marcher que si on met vraiment des moyens dans ces institutions.
Qu'on y mette des moyens, et aussi, il y a une question fondamentale qui est celle de l'accès aux données. C'est-à-dire que si on regarde les politiques des plateformes depuis 2016, on se rend compte qu'elles ont mis beaucoup de choses en place pour lutter contre les propos haineux, pour lutter contre les fausses informations.
Mais même ça, une cour suprême, Facebook.
Ouais. Ouais, tout à fait, qui a créé une institution indépendante du réseau social, composée de personnalités de la société civile, qui auront un pouvoir de contrainte sur les publications de Facebook, des collaborations avec des journalistes, des collaborations avec des internautes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place.
Et qui ont créé une sorte d'écosystème économique qui draine. Maintenant, il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le contrôle, la censure, le repérage du contenu sur Internet.
Oui, il y a un marché de la modération très, très important.
Et on retrouve ce bouclage du marché.
Oui, mais alors, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que la question, c'est les plateformes font beaucoup de choses, elles publient des rapports de transparence sur ce qu'elles font, mais que savons-nous vraiment de la réalité des données qui nous sont présentées, et comment une institution publique pourrait auditer des plateformes ou avoir les moyens de savoir si les données qui nous sont fournies sont vraies, sont vérifiables, etc.
Moi, je pense, à la phrase de Staline, Vatican, combien de divisions. Et là, on est un peu quand même dans le même paradoxe qui est très profond, parce que les États restent des parcelles de territoire, donc avec des moyens limités en dehors des grands États, mais alors que le web est mondial et donc il a une surface déspatialisée qui ne connaît pas les et donc on va en arriver, Marilyn Maizeau, à un rapport de force extrêmement cru, alors là, qui est tout à fait classique pour la philosophie politique, qui est un rapport de force et pour lequel la masse financière risque de jouer le rôle de juge de paix.
Effectivement, et c'est un rapport de force qui, à l'échelle de l'histoire, est quand même relativement récent. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on peut se prononcer de manière définitive sur le tour que les événements vont prendre. De la même manière que, si on pense par exemple au livre d'Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini, il explique comment, quand on passe d'une vision du monde close, qui est celle d'Aristote, où chaque chose est à sa place, où le monde a des limites, donc on arrive à s'y repérer, à une vision du monde où on accepte accepte, on admet l'existence de l'infini et on se retrouve avec Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, forcément le passage de l'un à l'autre ne se fait pas de manière ni immédiate ni tendre. Et je pense que ce moment dans lequel on est, c'est un moment qui effectivement a déjà une petite histoire, mais on est encore dans un moment de transition où le rapport de force n'est pas totalement
Est-ce que ce moment de transition, Marlène Maizeau, ne nous oblige pas à repenser, à réinventer, à redécouvrir la vertu du tiers, je pense du tiers désintéressé, vous parlez de Coiré, je voudrais vous répondre par Cogeb sur le tiers impartial, et c'est-à-dire, oui, que le tiers, le béaba, c'est que il est désintéressé, ça veut dire qu'il a pour seul intérêt la justice, qu'il n'aura pas cet arrière-fond commercial, ni cette opacité.
La question, c'est la question de la réalité de ce tiers objectif. Est-ce qu'il est envisageable? Est-ce que c'est une utopie? Tout à l'heure, on évoquait le fait que les personnes qui sont en charge de cette Cour suprême de Facebook sont rémunérées. Je pense au livre de Marcel Hennaff, Le prix de la vérité, où justement le philosophe qui se fait payer est considéré comme un philosophe dégradé par opposition, un sophiste par opposition à Socrate qui lui fait ça gratuitement. Le problème, c'est que tout travail qu'on demanderait à ces tiers objectifs sera un travail qui du coup impliquerait de ne pas être rémunéré pour ne pas créer un marché. Il faudrait avoir des seins en fait.
Il faudrait avoir un espace public, il faut avoir des institutions, c'est comme ça que ça s'appelle en droit, Romain Badoir.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de solutions possibles, mais aucune n'est parfaite. Aucune n'est parfaite. Effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine Garapon, sur l'idée qu'il y a une forme de délégation des pouvoirs à la puissance privée, y compris dans les nouvelles lois qui sont passées en Europe ces dernières années, ça c'est tout à fait vrai. Et justement, peut-être que la manière d'équilibrer un peu cette situation, c'est justement dans le pouvoir donné à des institutions ou des agences publiques de pouvoir contrôler un peu les réseaux sociaux. Et c'est le chemin que suivent différents pays européens aujourd'hui. La question étant de savoir de quel pouvoir de contrainte ils disposent réellement.
Oui, alors, et on retrouve là un débat qui nous est beaucoup plus familier, c'est quel est le territoire pertinent pour de telles opérations. Est-ce que cette régulation ne peut être qu'européenne, Romain Badoir?
Elle ne peut être que européenne, et d'ailleurs, normalement, le planning de la Commission européenne, c'est de faire passer de nouvelles directives avant la fin de l'année, ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui devrait mettre à jour justement la législation européenne en matière de régulation d'Internet et de fonctionnement de l'économie numérique. La Commission européenne, qui depuis 2016 a développé ce qu'elle appelle le code de bonne conduite avec les plateformes. Qui vise justement à leur imposer de nouvelles règles, de nouvelles normes qu'elles doivent respecter et de s'assurer via des méthodes de testing qu'elles les respectent bien. Donc effectivement, après différentes lois nationales passées sur le sujet, le débat est en train d'être transféré aux instances européennes. Et pour la régulation d'Internet, c'est sûr que c'est l'échelle pertinente.
Je me retourne pour le dernier mot au philosophe. Je vous demande pas un mot de sagesse, mais au moins un mot d'espoir, Marlène Maizeau.
Ah, un mot d'espoir, c'est mal tombé. Je suis camusienne jusqu'au bout. Hein. L'espoir pour Camus équivaut à la résignation, et vivre, c'est ne pas se résigner. Blague à part, effectivement, je pense que les perspectives qui ont été évoquées sur une mise en place de stratégies et d'institutions à l'échelle européenne sont prometteuses. Après, bien sûr, avec les limites qu'on imagine, déjà parce que certains sites savent très bien se localiser ailleurs que dans l'Europe pour pouvoir continuer à faire circuler du contenu. Mais je pense que c'est déjà quand même une ouverture prometteuse par rapport à la réalité d'aujourd'hui, hein, sur les réseaux.
Merci beaucoup. Esprit de justice, avec ce soir Marlène Maizeau et Romain Badoir, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Delphine Bedet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.